culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour chers amis auditeurs, sois le bienvenu à ce culte espoir. J'ai prié pour que Dieu soit avec toi là où tu te trouves. Peut-être en ce moment tu es dans ta voiture ou en train de préparer un repas ou tout simplement tranquille en cette journée de sabbat. Peu importe où tu te trouves, nous sommes ravis d'avoir ta compagnie. Quelle joie de vous retrouver! Aujourd'hui, dans le studio, nous recevons Guirlande. Bonjour mon ami.
Oui, salut Mildred, comment vas-tu?
Très bien, merci. Et nous avons aussi Daniel. Salut Dani.
Bonjour à tous, je suis très content d'être là avec vous.
Et nous donc. Notre invité spécial de ce jour est le pasteur Leandro Lopez, bien connu sous le nom de Léo. Bonjour Léo.
Bonjour, un grand plaisir d'être avec vous.
Merci d'être là. Léo, il me semble que tu es pasteur de deux églises sur Genève. Est-ce bien juste?
C'est très correct. C'est juste.
Parfait. Aujourd'hui, nous aborderons un thème très intéressant. De quoi vas-tu nous parler, Léo?
Alors, des difficultés de la vie et surtout de quand il arrive ces moments de parfois des tempêtes, des difficultés, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment pouvoir s'accrocher à notre Seigneur dans ces moments de difficulté? Et je pense que le monde, il vit un moment particulier aujourd'hui.
Ça, c'est vrai. Et nous avons hâte de partager ce moment avec toi. C'est vraiment un grand privilège de vivre ce moment de partage ensemble. Ici, nous allons prier, déguster de la musique et nous approcher de notre Seigneur. Que Dieu soit avec vous et aussi avec nous pendant ce culte. Daniel, c'est le week-end! Yes! Comment s'est déroulée ta semaine? De quelle façon tu vis Dieu dans ta semaine?
Très bien, bah, pour moi la semaine tout s'est bien passé, finalement une semaine de travail comme une autre. Et puis réfléchissant un peu, c'est vrai, hein, on est déjà dans une date avancée dans l'année, hein, c'est dingue comme les semaines passent vite, elles défilent hein, même pour ainsi dire. Et puis on a tout, je pense, vous l'avez aussi... une certaine routine, hein, se lever, se préparer, les enfants, le travail, on revient, les cours extrascolaires, on dort, etc. Donc, c'est vrai que, voilà, on a certaines habitudes, et puis après qu'elles vont, elles viennent chaque jour, et puis elles se répètent. Alors, je ne sais pas si vous avez une routine différente à la mienne, mais moi, en gros, c'est ça, hein, c'est boulot, manger, dodo, je crois que c'est comme ça qu'on dit, non?
Oui, il faut jeter les enfants au milieu, mais oui.
Exactement, ça, jeter les enfants après une journée de travail.
Non, c'est vrai, et puis en pensant un peu à tout ça, on se demande, mais où caser finalement notre rencontre quotidienne avec Dieu, avec toutes ces activités? Alors, c'est vrai qu'on entend souvent que le conseil principal, c'est à peine tu te lèves, tu dois passer un petit moment avec ton Créateur, comme ça ta journée commencera bien. Désolé de vous dire que c'est pas trop mon truc ça, parce que moi quand je me lève, je sais même pas comment je m'appelle.
Ah bah, ouais. C'est pas du matin.
Moi ouais, je suis pas du matin. Je sais pas si vous avez ces habitudes le matin ou pas.
Ouais.
Moi j'essaye quand même.
Oui, moi aussi. C'est vrai que ça me manque si j'ai pas un moment tranquille, mais c'est pas évident. Hein.
Ça c'est vrai. Et puis, ce qui est beau, justement, dans ce que vous racontez, c'est que comme on a tous un peu des expériences différentes, bah, voilà, on peut les partager et ainsi apprendre les uns des autres, parce que finalement, je crois qu'il n'y a pas juste une méthode qui est la correcte, mais il y a plutôt voilà, une multitude et chacun s'inspire de ce qui est le mieux pour lui. Pour ma part, moi, le moment que j'aime beaucoup, c'est le soir. Hein, quand les enfants ils se couchent, c'est un super moment. Je lis un petit truc tranquille, tu pries, tu racontes ta journée à ton Créateur, tu analyses le positif et aussi bien le négatif. Par contre, vous pensez bien que ce n'est pas la solution miracle, parce que des fois, je me mets au lit et je m'endors avant de faire tout ça. Alors, c'est vrai que mal joué. Mais voilà, à mon sens, il n'y a pas, une manière de faire 100% optimale ou 100% la meilleure. C'est à nous de savoir trouver chaque jour le moment adéquat et puis être ouvert à d'autres possibilités. Par exemple, pour moi, le matin. D'accord. Très bien.
L'important, c'est maintenir cette relation, n'est-ce pas ?
C'est vrai.
Exactement.
Et puis, donc voilà comment je peux un peu expliquer ou partager avec vous, finalement, comment je vis Dieu dans mon quotidien au fil des semaines qui passent. J'aimerais aussi partager avec vous une promesse, hein, ce qu'on appelle la promesse du jour, d'accord ? C'est un verset que j'ai découvert ou redécouvert l'autre fois et puis qui me semble vraiment sympa. Nous sommes à la fin de la vie de Moïse, il a conduit son peuple dans le désert pendant 40 ans, ça a été un peu la référence hein, au niveau du peuple, il a conduit le peuple d'Israël à travers donc, le désert, il arrive à la terre promise, et puis ce voyage pour Moïse s'arrête là. C'est pas lui qui conduira hein, son peuple, en tout cas physiquement là, à la terre promise, Dieu a d'autres plans pour lui. Alors il réunit l'assemblée et puis il nomme Josué comme son successeur. Et puis il lui dit devant tout le monde la chose suivante qu'on trouve à Deutéronome 31, 7 et 8. Donc je le partage avec vous. Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël. Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Je trouve que c'est un super verset puisque aujourd'hui, je pense, tous, on doit prendre des décisions avec plus ou moins d'importance. On est d'accord, il y a des décisions plus importantes que d'autres. Mais le fait de savoir qu'on n'est pas seul à l'heure de cette prise de décision, alors évidemment on a nos amis, notre famille, mais on a aussi ce Dieu qui nous permet d'avancer et puis de nous projeter à l'avenir, hein, comme il dit à la fin, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Donc c'est beau de pouvoir être réconforté de cette manière, j'aimerais dire. Voilà.
C'est vrai. Effectivement, Daniel, c'est une belle promesse. Merci beaucoup. Il est vrai que tous les jours, nous sommes confrontés à de diverses situations. Nous vivons constamment des moments agréables et des moments difficiles. Toi, cher ami qui nous écoute, si jamais tu traverses une zone de turbulence en ce moment, ne désespère pas. Nous savons que Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Et du possible aussi, n'est-ce pas? Si jamais tu as l'impression de marcher seul, et que tu vas tomber, sache que Jésus est là pour toi. Jésus est au milieu de nous. C'est le chant que nous allons chanter maintenant.
Je vous aime tous. sa douce voix, l'entendez-vous, je vous aime tous.
C'est surassurant de savoir que Dieu nous aime. Il est présent dans nos vies et rien ne pourra nous séparer de lui. Nous avons un Dieu de victoire. Il peut venir te soutenir aujourd'hui, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Demande-lui de faire partie de ta vie. Dieu souhaite habiter avec toi. Dieu désire habiter dans ton cœur et dans tes pensées.
L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner, le Dieu de victoire se bat pour moi.
ne sais plus où te tourner. Maintenant, tu crois qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver ton chemin. Mais plus d'une fois, Dieu t'a montré qu'il prend bien soin de toi. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais. Comprends bien ta douleur. Tu sais bien qu'il est là, mais dans ta souffrance, tu as dû oublier qu'il est le Dieu des étoiles, du soleil et des mers, qu'il est aussi ton Père.
Constamment dans nos vies. Même quand des événements tragiques nous tombent dessus, Dieu trouve un moyen d'être présent. Aujourd'hui, nous avons Guirlande dans nos studios et elle va nous raconter de quelle manière elle apporte Jésus-Christ à des personnes qui semblent vivre dans une vraie tempête, car ces personnes-là sont en prison. Guirlande, explique-nous un petit peu de ce que tu fais en tant que bénévole.
Déjà, ça fait déjà plus de 8 ans depuis que j'interviens dans une prison à Genève en tant que bénévole. Donc, j'avais une phobie par rapport à la prison parce que c'est quelque chose qui me terrorise un peu de dire que tu vas aller dans une prison. Et c'est vrai que quand je lis ma Bible, quand je parle avec mon Dieu, j'ai ce verset qui me travaille tout le temps. C'est Matthieu 25, 43. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas venu me rendre visite. Et là, chaque fois, je lis ce verset, ça me travaille. Je me suis dit, mais c'est un handicap, cette phobie par rapport à la prison. Et en bonjour à mon église, et j'ai une invitation d'aller à la prison. Je me suis dit, alors, Dieu, tu me parles et tu vas me donner des outils pour y aller. Parce que je sais que tu es un Dieu juste. Quand tu choisis quelqu'un, tu ne choisis pas par ses compétences, mais tu le choisis comme elle est. Et toi, tu lui donnes les compétences pour y aller. Et ce jour-là, j'ai saisi cette occasion, mais timidement, avec beaucoup de tremblement. Mais j'ai choisi cette
On peut comprendre.
Voilà,
parce
exactement.
Que prison, c'est quand même pas le lieu le plus accueillant du monde.
Ouais, exactement. Et j'ai fait confiance à Dieu, un peu comme Moïse, hein, quand il avait choisi pour... Bon, je veux pas me mettre là-dedans, mais c'est un peu le même style, comment j'avais peur d'y aller. Et à ce moment-là, là, ça fait plus de 8 ans et j'ai toujours du plaisir à aller à la prison. Et là, j'ai deux fonctions là-bas. Je donne des cultes avec des pasteurs. Et ensuite, j'y vais aussi comme visiteuse de prison. Et je visite des détenus qui n'ont pas de famille en Suisse. Que franchement, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Je pensais que j'allais apporter... Mais j'ai appris aussi des choses. C'est ça, je trouve, qui est très, très beau dans cet échange. En tant que chrétienne aussi, c'est d'apporter aussi l'amour de Dieu aussi.
Et concrètement, donc, tu discutes avec ces personnes-là, tu parles de Dieu et...
Oui, en tant que visiteuse de prison, on peut, l'avantage, on peut aborder tous les sujets. C'est ça l'avantage. Des fois, j'aborde de la cuisine, de la musique, du sport. Et je trouve toujours une occasion de mettre Jésus dans tout ça. Et des fois, j'ai des ouvertures et des fois, j'en ai pas. Mais je continue à rendre visite à ces personnes et prier pour eux aussi.
Est-ce que tu aurais une histoire pour nous à partager avec nous?
Il est vrai, j'ai rencontré pas mal de personnes qui vivent des situations très difficiles, qui ont été piégées dans leur vie ou qui ont pas choisi, malheureusement, la bonne direction. Et il y a une histoire qui m'avait touchée et j'aimerais la partager. L'histoire, c'était lors d'une célébration en dimanche. Et... on avait parlé, on avait choisi comme livre, c'était Jean 10, le bon berger. Et pendant qu'on parlait, on discutait qu'on peut se tromper par un ami. Un ami peut nous piéger ou peut-être on n'a pas de confiance même en notre propre maman ou qui que ce soit. Mais par contre, il y a un bon berger qui est toujours là avec nous, on ne serait jamais déçus de lui. Et il y avait une femme qui pleurait. Elle pleurait. Puis à un moment donné, elle me dit, moi franchement, me parler de quelqu'un de bon, j'ai beaucoup de peine à accepter ça. Parce que moi, j'ai été piégée par mon propre compagnon. Comment on peut me dire qu'il y a des gens bons et quelqu'un, j'ai fait confiance. Avec quelqu'un, je vis et j'ai des enfants.
Elle a été piégée de quelle façon?
Cette jeune femme et son compagnon lui avaient proposé de juste, avec une valise, d'aller dans un autre pays. Et arrivé à l'hôtel, il y a quelqu'un qui va venir chercher la valise. C'est tout simple. Son billet a été payé, son hôtel. Voilà, c'est un truc de rêve. Un peu pour elle, c'était ça joue de chance, quoi. Et c'est cette joie des chances qui est devenue une tempête dans la vie de cette femme.
Parce qu'est-ce qu'il y avait dans la valise?
De la drogue, malheureusement. Mmh. Et cette femme, elle n'était pas au courant de qu'est-ce qu'il y avait dans sa valise. Pour elle, innocemment, j'allais déposer cette valise à l'hôtel et puis c'est bon, la personne prend sa valise. Et moi, j'ai une super enveloppe et c'est bon, j'ai des sous pour quelques années et ça va très bien. Et malheureusement, c'était de la drogue. Et cette femme, elle a su ce qui était dans la valise à le moment qu'elle était entre la main de la justice. Et tout a basculé. Sa vie a ravagé en quelques secondes. Et la femme m'a expliqué, pour elle, c'était une tempête. C'est une tempête d'un coup avec de la pluie, inondation qui a tout ravagé dans sa vie. Sa vie était devenue chaotique parce que d'un coup, elle ne savait pas où étaient ses enfants, où ses enfants ont été placés parce qu'elle était à l'étranger. Elle arrive dans un pays où elle ne parle pas du tout la langue. Elle était vraiment, vraiment désespérée.
Et donc, tu as pu partager l'amour de Jésus avec elle?
Oui, en effet, je lui ai dit que avoir Jésus comme son bon berger, c'est un vrai bon berger. C'est pas quelqu'un qui va te tromper. Il est là, il est toujours avec toi. Et j'ai dit, si tu veux ce bon berger, aujourd'hui même, il peut apaiser cette tempête que tu vis. Elle était d'accord. On a prié ensemble. Et après mon retour quelques semaines, et j'ai rencontré cette jeune femme. Elle m'a dit cette phrase qui m'est restée, c'est qu'elle m'a dit « Tu sais, je me sens libre, même quand je suis à la prison. » Je me suis dit « Waouh !»
C'est magnifique. Ouais. Ouais. Elle a rencontré Jésus-Christ. Merci beaucoup, Guirlande.
Mais je t'en prie.
Merci pour ton partage et que tu puisses continuer dans cette voie à apporter Jésus-Christ à d'autres personnes et que la tempête... les tempêtes qui frappent ces vies-là puissent être apaisées grâce à Jésus. Merci.
Amen.
Il y a quelques années en arrière, j'étais invité à faire une balade dans le lac Léman. C'était quelque chose de merveilleux parce qu'on était tout un groupe d'amis, on était plusieurs. Et c'était un bateau à voile, vous voyez. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est la première fois que je vais être dans un lac transparent comme ça, avec les montagnes de côté. Il y avait un ciel bleu, mais c'était vraiment un cadre pour pouvoir faire une peinture tellement c'était beau. Donc, on a commencé à se promener. Et donc, le bateau, le voilier, il était à quelques mètres, à 100-150 mètres de la rive, vous voyez, donc il fallait prendre un petit canoë, aller jusqu'au bateau et après on prenait le bateau pour aller se promener. Après quelques heures, le ciel bleu, cette brise douce, il se transforme dans un vent violent, quoi. D'un seul coup, ça commence à souffler, ça commence à avoir des nuages un peu partout. Et d'un seul coup, on commence à s'inquiéter parce qu'on voyait que dans quelques minutes, il allait avoir une tempête. Donc, j'ai posé la question à un des responsables, c'est qu'il guidait un petit peu cette promenade. Et je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il ne faudrait pas rentrer? Il m'a dit, oui, t'inquiète pas, on va rentrer. Et donc, on commence à rentrer. Et là, je vous promets que d'un seul coup, je me suis dit, mince, est-ce que je vais mourir ce soir? Alors, c'est vrai que c'est le lac de Genève, le lac Léman, pardon, pour ceux qui habitent ailleurs que Genève, mais c'est... Le lac Léman, il pourrait dire, ça ne fait pas peur, on n'est pas très loin, ce n'est pas si profond. Mais mine de rien, là, sur le bateau, que les vagues, ils commençaient à nous amener d'un côté à l'autre, ça commençait à devenir compliqué. Et sur toutes les choses que quand on a, je ne sais pas comment on dit, garé le bateau, on ne dit pas garé le bateau, mais quand on l'a laissé à 100-150 mètres, il fallait prendre le petit canoë pour rentrer. Et pendant qu'on était... en train de se dire comment on allait faire pour rentrer jusqu'à la terre ferme, il m'est venu cette histoire de Jésus-Christ. Et j'ai pensé à cette époque, ça fait très longtemps en arrière, hein, j'ai pensé immédiatement, parce que j'aime beaucoup faire des relations dans ce que j'ai vu au quotidien, comme Daniel nous disait aujourd'hui, il nous parlait, et peut-être pas une méditation le matin, l'après-midi ou le soir, mais... ma vie, j'essaye de qu'il soit en communion avec Dieu et j'ai fait des liens bêtes. Et là, c'était le lien parfait avec cette tempête. Moi, je vous invite à aller au livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8, le verset 23. Dans ce texte-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais le lire et ensuite pouvoir partager quelques réflexions par rapport à cette tempête qu'il a eue Jésus-Christ et ses disciples. Il monta dans le bateau et ses disciples le suivirent. Alors, survint sur la mer une tempête si fort que le bateau était recouvert par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples virent le réveiller en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ?» Alors il s'éleva, rabroua les vents et la mer, et un grand calme se fit. Étonné, il se disait « Quelle sorte d'homme est-il, celui-ci, que même les vents et la mer lui obéissent ?» Quand j'ai lu ce passage, cette histoire de Jésus-Christ avec ses disciples, il y a des choses qui me surprennent énormément. Je ne sais pas si vous regardez au verset 23, qui il dit que Jésus-Christ il va monter dans le bateau et que c'est les disciples qui vont le suivre. Et ça, je trouve très beau parce que Matthieu il est en train de déjà nous donner une leçon. Le mot disciple, c'est celui qui va suivre les enseignements d'un maître et qui va suivre ce maître-là. Et là, le texte, il nous parle que les disciples ils vont suivre Jésus-Christ. Malgré que Jésus-Christ, il n'était pas le maître de la mer. C'était les disciples qui étaient en sa grande majorité des pêcheurs, qu'ils connaissaient les lacs. Parce que quand on parle de la mer, en réalité, on est en train de parler des lacs de Galilée. Ils pensaient que c'était une mer parce qu'il était très grand. Mais c'est comme si aujourd'hui, j'appelais le lac Léman, la mer Léman. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas ça. Mais ça, c'est la première chose que ce texte il m'apprend, c'est dire, c'est nous qu'on doit suivre le Christ, et pas Christ qu'il doit nous suivre. Donc, quand Jésus il est dans le bateau, moi, je pense que c'est la première invitation qu'on pourrait faire, c'est dire, moi, je veux être là où il est. Parce que cet homme-là, il est capable même d'apaiser une tempête dans les moments les plus difficiles. Mais quand je réfléchissais à cette histoire qu'il m'est arrivée dans le lac Léman et que j'ai pensé aux disciples, je me suis dit, mais les disciples, ils ne pouvaient pas avoir peur, en tout cas pas comme moi, parce qu'eux, ils connaissaient la mer. Et vous savez, je ne sais pas si vous étiez déjà dans un bateau, quand les vagues ils sont grandes, ils vont rentrer dedans le bateau, devant la barque, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça qu'on a un petit seau, et quand l'eau il rentre, on sort l'eau. L'eau il rentre, on sort l'eau, et ça va. Pour eux, ce n'était pas un problème. Sauf que le texte, il dit quelque chose qu'en français, on n'arrive pas à le voir. Vous voyez qu'au verset 24, il dit « Alors survint sur la mer une tempête ». Le mot « tempête », à l'origine en grec, c'est le mot qu'il a donné, le mot « séisme » en français. En réalité, ce que Matthieu il est en train de nous dire, c'est qu'il y a eu un tsunami, quoi. Que c'était vraiment quelque chose de très fort. Est-ce que vous imaginez être là au milieu d'un lac qui soit sombre la nuit, que tu vois rien, et que d'un seul coup, les vagues, ils sont énormes, ils couvrent le bateau? Je pense que les disciples, c'est comme nous, quelque part, ils étaient désespérés. Mais je pense que là, on peut tirer une leçon, parce que souvent dans notre vie, hein, dans la vie de n'importe qui, toujours qu'on a un petit souci, un petit problème, on essaie de le résoudre par nous-mêmes, n'est-ce pas? On dit « Non, mais je ne vais pas déranger Jésus-Christ pour ça. Attends, il y a une tempête, on ne va pas le réveiller à notre maître à cause de ça. On le laisse reposer, on le laisse dormir. » Sauf que quand on se trouve déjà dans l'embarras, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, c'est là qu'on s'est dit « Ah mince, peut-être je devrais essayer avec Jésus-Christ. » Et là, ils vont aller vers Jésus. Ils vont lui poser la question, ils vont lui dire « Seigneur, sauve-nous. Nous sommes perdus. » C'est-à-dire, ces gens-là, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et là, l'interpellation de Jésus-Christ, il m'interpelle à moi aussi. Parce que, d'un côté, il y a ses disciples qui sont désespérés, qui sont angoissés. Et de l'autre côté, on voit le maître en train de dormir. C'est comme qu'on a un sommeil sympa, un sommeil relaxant. Quand on n'est pas stressé, qu'on n'a pas de problèmes, qu'on n'a pas de difficultés, qu'on n'a pas beaucoup de choses à faire le lendemain. Parce que quand on a des choses comme ça dans notre vie, souvent, je dis souvent, je ne dis pas pour tout le monde, on a du mal à s'endormir. Parce que la tête, ça travaille trop. Et quand on s'endort, on rêve même de toutes ces choses-là. Alors, les disciples, ils vont être, je pense que d'une manière ou d'une autre, dans cette situation d'angoisse, de beaucoup trop réfléchir, et de l'autre côté, Jésus-Christ, en train de se reposer, d'avoir la paix. Et moi, je me dis, bah, moi, j'aimerais avoir cette paix-là pour dormir, pour me reposer, pour être tranquille. Et surtout quand il va y avoir une tempête. Là, les disciples, ils vont s'approcher de Jésus-Christ. Et je pense que de là, il vient l'interpellation de Jésus en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi vous avez douté? Est-ce que je ne vous ai pas dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ?» Je pense qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, il pourrait nous poser nos questions à nous, à les gens qui sont en train de nous écouter ou de nous voir. Et je sais que peut-être tu as peur de Covid, que tu as peur de que ton couple il parte en brique. Je sais que tu as toutes ces craintes. Mais est-ce que je ne t'ai pas promis que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu ne mets pas ta foi en moi? Je pense que je me retrouve comme les disciples parfois dans des tempêtes de la vie. Et Jésus-Christ ne nous a jamais promis que quand on allait monter dans le bateau avec lui, qu'il n'allait pas avoir de tempête. Il nous a promis qu'il sera là avec nous.
Que la mer serait paisible, finalement.
Tout à fait, tout à fait. Alors, là, plus ou moins pour conclure, ce que ces textes-là, ils nous partagent, c'est que Jésus-Christ, il va calmer ces tempêtes-là. Mmh. Et c'est la tempête qu'on peut avoir dans chaque moment de notre vie. Mmh. Ces difficultés, les problèmes dans le couple, les problèmes dans la famille, dans le travail, dans nos quotidiens, comme il disait Dani, parfois on est tellement débordé, on est épuisé, parfois il y a une routine qui s'installe. Bah, Jésus-Christ, il peut venir pour justement nous sortir de là. Alors, pour donner fin à l'histoire que je vous ai racontée au commencement, quand on devait rentrer à ce rivage-là, et ça fait écho à ce qu'ils ont vécu les disciples, comme il avait énormément, on était 12 sur le bateau, il fallait rentrer des 3 en 3 jusqu'à à la terre ferme. Et évidemment, comme moi je suis un macho, je suis un homme, j'ai dit « rentrez-vous, moi je reste ici ». Non, c'est pas vrai, j'ai dit « je rentre le premier ». Et donc du coup, j'ai dit bah, « on monte ». Et on était 3 dans le petit canoë et on commence à ramer. C'était un de nos amis qui commençait à ramer vers l'arrière, vous savez, dans un canoë, on rame. Sauf que la brase qu'il tenait, la rame, il se casse. Et donc, du coup, est-ce que vous savez ce qui se passe dans un canoë quand on rame avec une seule rame? On tourne en rond. Et je me rappelle qu'on essayait de trouver des solutions pendant 15, 20, 30 minutes. Et dans un moment, quelqu'un qui était là dans le bateau, ce n'était pas moi, il a dit, et les amis, si on prie, parce que là, ça devient compliqué. Et du coup, on a prié. Et je pense que on était tranquille après cette prière, et on a pu avoir la tête pour mieux gérer cette tempête, cette difficulté. Évidemment, on a réussi à arriver de l'autre côté, mais pour moi, il est resté un grand enseignement que Jésus, il ne faut pas qu'on le mette que quand la tempête, il est déjà dans un stade 4 ou 5. Il faut que, dès qu'on est dans le bateau avec lui, qu'on puisse lui faire confiance, le jour après jour.
Et tout de suite aussi, peut-être, parce que typiquement, l'être humain va demander de l'aide une fois qu'on a déjà essayé toutes les autres possibilités, et quand on n'a pas réussi, c'est là qu'on crie au secours.
Tout à fait. Et que le Seigneur, il est OK avec ça, parce qu'il va venir nous secourir. Cependant, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il puisse avoir cette communion intime jour après jour, heure après heure. Et ça, je pense que quand on arrive à rentrer dans cette dimension, peu importe si les océans ils se dégènent, comme il dit le chant, je sais que je les traverserai avec lui. C'est de là l'importance de se dire, je vais suivre Jésus-Christ. Et je sais que si lui, il est dans mon bateau, peu importe ce qu'il puisse passer, même s'il y a l'orage le plus grand du monde, il est avec moi jusqu'à la fin du monde.
Amen. Dites-moi, chers amis, est-ce que vous connaissez Annie Oakes?
Pas du tout.
Non. Je crois pas, non.
Ça me dit rien.
Alors, Annie Oakes est née à New York le 28 mai 1835. Et maintenant, je continue à vous questionner. Si je vous dis « J'ai soif de ta présence », est-ce que cela vous parle?
Ah oui, bien sûr.
Eh oui, c'est un cantique chrétien connu depuis un bout de temps.
Ah, depuis si longtemps déjà? Si,
exactement. Ah. Justement, ce cantique a été composé par Annie Oakes. Un jour, cette femme ordinaire était très occupée par les différentes tâches de son ménage et absorbée par diverses inquiétudes. Malgré tous les soucis qui occupaient son esprit, elle se sentait ce jour-là réjouie par la présence de son maître Jésus-Christ, notre maître aussi. Alors, elle se disait ceci, et d'ailleurs, je vais même vous lire ces paroles précises. « Soit dans la joie, soit dans la peine, comment peut-on vivre sans lui ?» Alors, cette pensée, ou plutôt cette prière, me remplit l'esprit. « Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. » Mon ami, à ce moment-là, assise près de la fenêtre, en cette matinée claire et embaumée, elle ressentait un sentiment si intense qu'elle a pris un morceau de papier et a commencé à écrire ces mots que nous connaissons aujourd'hui. Elle mettait sur papier ces douces pensées qui lui traversaient l'esprit et cela est devenu un petit poème. Quelques mois après cela, le pasteur de son église, qui s'appelait Robert Laurie, a composé un air pour ses paroles et ils ont commencé à chanter cela pendant leur culte. C'est fantastique, n'est-ce pas? Alors, cela a plu aux divers croyants et rapidement, pour le grand étonnement de l'auteur, ce chant a été répandu dans d'autres villes. Annie Oakes, maman de 3 enfants, a composé, vous savez combien? 400 cantiques pendant sa vie.
Wow.
C'est immense, n'est-ce pas?
Ouais.
Quelque chose m'impressionne dans cette histoire, vous savez. En fait, des fois, on imagine que pour apporter quelque chose de beau, quelque chose d'inspiré, il faut qu'on soit un peu hors norme, un peu surnaturel et même très différent des autres. Mais cette histoire, l'expérience de cette femme tout à fait normale, comme vous et moi, montre qu'il suffit d'être sincère et laisser Dieu aux commandes de notre vie. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je trouve que c'est une histoire extraordinaire parce que cette chanson, je l'aime beaucoup. Et cette chanson de ma jeunesse.
Et voilà, comment ce chant est arrivé ici en Europe, vous savez?
Aucune idée.
Ah, bah aujourd'hui, vous allez tout savoir. Alors, l'adaptation française des paroles de ce cantique est due à Auguste Glardon, qui a vécu de 1839 à 1922. D'abord, il était missionnaire aux Indes, puis pasteur en Suisse. Et il a contribué par ses traductions à faire connaître de nombreux cantiques du réveil anglais ou américain. C'est de cette façon que ce chant est arrivé en Europe. Autre point très intéressant est que la traduction de ce cantique est née elle-même de plusieurs expériences de foi profondément incarnées dans une réalité difficile. Comme cela a été dit, Auguste Glardon, pasteur et missionnaire, a souffert de fièvre d'une maladie tropicale, vu qu'il était missionnaire. Quand on dit dans la chanson que des ennemis rôdent autour de moi, ce missionnaire l'a vraiment vécu, car autour de lui, il y avait des animaux sauvages et il y avait aussi des rumeurs calomnieuses répandues pour le discréditer. Donc, il risquait vraiment sa vie. Et plus encore, plus dur encore, son fils, son petit garçon de 5 ans, est décédé. Quelle tristesse! Alors, cet homme a pu adapter de l'anglais au français et il a vécu ses paroles dans sa chair. Ce chant simple et profond nous apporte un message bien réel. nous avons besoin de Dieu constamment dans notre vie. Alors, mon ami, chère auditrice, cher auditeur, je te propose d'écouter et de chanter avec nous le cantique « J'ai soif de ta présence », invitant Jésus-Christ à rester tout près de nous.
J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais, chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi, viens Jésus. Auprès de moi, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
Dis-moi, comment fait-on pour gagner de l'argent?
Il faut travailler, non?
Bah oui,
normalement.
Oui. Ou si on a des parents riches.
Ou on joue au loto.
Oui, ça aussi. Oui, en effet. Voilà, vous avez raison, les amis. Pour gagner de l'argent, il faut travailler. Ou si on a des parents riches qui nous ont laissé un joli héritage, ça aussi, c'est une bonne façon. Mais, par contre, dans la Bible, il y a une histoire extraordinaire. Dans une histoire biblique, plutôt dans un miracle réalisé par Jésus, les choses se sont passées autrement. L'argent est arrivé dans la bouche d'un poisson.
Ah ouais?
Et oui.
Incroyable, oui.
En fait, il fallait que Jésus et Pierre payent les impôts, même si visiblement cela a été imposé seulement aux étrangers et que du coup, ils n'étaient pas concernés. Mais d'après ce que j'ai compris, pour ne pas choquer, pour ne pas scandaliser les autres, Jésus a décidé de payer les impôts. Donc, il dit à Pierre d'aller pêcher dans le lac. Là-bas, il devait prendre le premier poisson qui viendrait et dans sa bouche, il trouverait une pièce d'argent. Plus impressionnant encore, cette pièce d'argent serait suffisante pour régler les impôts pour tous les deux.
Wow. Wow.
Pierre a fait preuve de foi. Tout ça est vrai, cher auditeur. Tu peux trouver cette pépite biblique dans Matthieu 17 à partir du verset 24. J'apprends avec ce texte que Jésus sait tout. Il savait même où trouver cette pièce. Alors sûrement, il sait ce qui se passe dans mon cœur. Il connaît mes rêves et mes souhaits. Il connaît ma vie. Il voit quand je suis triste ou heureuse et j'ai de la valeur à ses yeux. Même quand le combat est dur, je sais que je peux compter sur Dieu. Nous pouvons demander à Jésus de calmer les tempêtes qui s'abattent sur nos vies. Nous pouvons aussi apporter la paix à travers Jésus-Christ aux différentes personnes que nous croisons sur nos chemins. Saint François d'Assise a écrit une belle prière et nous allons la réciter en ce moment. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est de la haine, que je mets l'amour.
Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union.
Là où est l'erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler.
À être compris qu'à comprendre.
À être aimé qu'à aimer.
Car c'est en se donnant qu'on reçoit.
C'est en s'oubliant qu'on se retrouve.
C'est en pardonnant qu'on est pardonné.
C'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle.
Et nous allons maintenant prier tous ensemble.
Très bien.
Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment. Nous aimons que chaque personne qui nous écoute actuellement là puisse être à sa place, puisse avoir un cœur ouvert pour recevoir ta parole. Et bénis chacun d'eux et bénis chacun de nous. Et nous te remercions du fait que tu nous fais cette promesse, tu nous as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons pu partager ici tous ensemble. Merci pour ces programmes, pour les gens qui prennent le temps à les préparer. Mais aussi Seigneur, bénis les gens qui écoutent ces programmes, qui puissent être touchés par ta parole. Bénis-nous chacune et chacun d'entre nous dans les tempêtes qu'ils puissent avoir dans nos vies, en sachant qu'une fois qu'elles sont passées, le calme revient. Bénis, Seigneur, la situation au niveau mondial, période difficile, que tu puisses être avec chacun et chacune d'entre nous. Accompagne-nous dans nos vies, dans nos plans, que tu puisses nous guider dans chaque pas que nous faisons. Nous te demandons tout cela en ton nom. Amen.
Amen. Alors, à mon ami qui m'écoute, j'ai une action à vous proposer aujourd'hui. Donc, moi, il y a une expérience, c'est par rapport à un film. Je suis très ciné, j'aime bien les films. Et là, j'ai découvert un film, très curieuse aussi, c'était un film qui s'appelait « Le trafic de la honte ». Je me suis dit, c'est quoi ce film? Je pensais au trafic de drogue, tout d'un coup. Je me suis dit, tiens, je vais le regarder. À ce moment-là, j'ai commencé à regarder ce film, mais l'histoire, c'était des jeunes femmes. Il y avait un homme qui allait dans des quartiers plutôt défavorisés. Et il y a beaucoup de jolies femmes qui lui proposaient, qui disent que, écoute, On te paye en billets, tu auras un bon travail, tu vas toucher vraiment des dollars verts, comme on dit, hein, de dollars américains. Et donc, c'est justement, tu dis oui. Et donc, il y a beaucoup de jeunes femmes qui étaient dans les grands besoins, et qui sont acceptées. Et ils sont arrivés dans les pays, dans d'autres pays. Et donc, cette femme, elles étaient obligées à se prostituer. Et elles se sont fait piéger. Et donc, à un moment donné, ces femmes, elles disent non, c'était pas ça le contrat. Moi, je pensais que j'allais être serveuse, j'allais être dans d'autres postes. C'est pas ça. Moi, je refuse de faire ça. Et cette femme, elles ont subi des pressions de toutes sortes, quoi. Il y en a certaines, ces hommes-là les ont tabassées ou menacées leur famille. Et ça m'a tellement touchée, je me suis dit, mais tu te rends compte, quand on n'a pas Jésus dans sa vie, n'importe qui peut tomber dans ce piège. Et ça m'a donné un défi. Et ce défi, et chaque fois que je passe à un endroit, il y a un endroit, souvent je passe pour aller au travail, et je sais que ça, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation. Et je prends le temps dans ma voiture et penser à ce film et prier aussi pour ces genres de personnes qui se retrouvent dans des situations pareilles. Et aujourd'hui, moi, je vous propose, chacun de vous, peut-être que vous connaissez une personne qui est dans la souffrance, peut-être c'est pas dans cette situation-là que je viens de partager avec toi, peut-être c'est une situation maladie, ou peut-être aussi c'est une situation d'une famille qui est en train d'exploser, ou encore d'autres situations. Moi, je te propose, prier pour ces personnes. Parce que Dieu nous demande de prier pour les uns les autres. Des fois, il y a des prières en silence qui font tellement du bien à ces personnes. Donc, moi, je t'encourage aujourd'hui, vraiment, à le faire. Et Dieu, il t'écoute.
Eh oui, je vais Merci. Y penser pendant la semaine à ton défi, Guirlande. Cher ami du culte Espoir, je te souhaite un excellent sabbat et que Jésus-Christ soit toujours dans le bateau de ta vie et qu'il t'accorde sa paix. Nous te donnons rendez-vous samedi prochain. Que Dieu te bénisse.
C'était le culte Espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.